Bonjour à toutes et à tous, c'est Jamy. Bienvenue dans Par ici le futur, le podcast qui interroge l'avenir en Occitanie. Comment se nourrir demain? Quels moyens de transport seront utilisés par nos enfants et nos petits-enfants? Comment produirons-nous l'énergie nécessaire à notre quotidien? Ce sont les questions que nous posons à celles et ceux qui travaillent dès aujourd'hui au monde de demain. Ensemble, partons explorer ce territoire engagé dans des solutions d'avenir.
Par ici, le futur.
La rénovation thermique a ceci d'intéressant qu'elle fait complètement coïncider les enjeux énergétiques et environnementaux et les enjeux sociaux. Ces actions, c'est aussi un moyen évident de lutter contre la précarité énergétique.
Aujourd'hui, je vous propose comme nouvelle étape dans notre odyssée, l'énergie. Sans énergie, pas de voiture, de train ni d'avion. Pas d'appareils électriques ni de chauffage à la maison. Fini Internet, fini les communications. Autrement dit, on ne peut pas s'en passer. En France, l'énergie qui est délivrée aux consommateurs sous forme d'électricité, de chaleur ou de carburant provient d'un ensemble varié de sources. Pétrole brut, gaz naturel, rayonnement solaire, énergie hydraulique, énergie du vent. Sans oublier l'énergie nucléaire tirée de la fission de l'uranium. Pétrole, gaz, charbon, ces énergies fossiles sont responsables du changement climatique en émettant des gaz à effet de serre. Il y a urgence à s'en séparer. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène une nouvelle fois en Occitanie, une région qui vise l'indépendance énergétique en couvrant entièrement ses besoins par des énergies renouvelables d'ici à 2050. Nous parlerons de parcs d'éoliennes flottantes, d'usines à hydrogène vert, de production d'énergie renouvelable à l'échelle des citoyens, de rénovation énergétique des bâtiments, mais aussi de sobriété énergétique. L'Occitanie a pour ambition de devenir la première région à énergie positive d'Europe d'ici à 2050. Autrement dit, de couvrir tous ses besoins en énergie par des énergies renouvelables. Éolien, solaire photovoltaïque, biomasse pour les plus importantes. Une trajectoire sur laquelle s'est engagée l'Occitanie dès 2016. L'objectif est atteignable à condition de réduire les consommations d'énergie et de développer massivement la production d'énergie renouvelable. Yves Marignac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert en énergie et porte-parole de Négawatt, à ne pas confondre avec Mégawatt. Un mégawatt, c'est une puissance électrique correspondant à 1 million de watts. Le négawatt désigne, lui, une puissance d'énergie que l'on économise. Des watts en moins, si vous préférez. Une notion qui vous est chère, Yves Marignac, puisque depuis plus de 20 ans, l'association Négawatt propose des scénarios de transition énergétique pour le pays qui reposent, entre autres, sur des économies d'énergie. Alors que le Parlement a validé un projet de loi prévoyant la construction de 6 nouveaux EPR d'ici à 2050, dont 2 d'ici 2037, la région Occitanie envisage de devenir la première région à énergie positive en 2050. Ça ressemble finalement à un des scénarios que vous avez bâti. Alors, comment est-ce possible ?
La transition énergétique vers 100% renouvelable, elle est possible en commençant par avoir bien conscience de tout ce que vous avez posé dans cette introduction, c'est-à-dire le fait que l'énergie, ce n'est pas seulement l'électricité, le carburant qui nous est livré, mais c'est d'un côté des ressources que l'on prélève dans l'environnement et de l'autre des services que nous rend l'énergie. Vous avez mentionné le chauffage, la mobilité, etc. Et le système énergétique, puisque l'énergie, en fait, du point de vue de ces transformations, est un système, c'est les différents choix que l'on fait pour mettre en relation des ressources énergétiques et des services rendus. Et tout l'enjeu de la transition, c'est-à-dire de la transformation de ce système, c'est effectivement d'agir sur les deux leviers, le levier des services et le levier des ressources, avec évidemment tout ce qui se joue entre les deux. Et l'association Négawatt, depuis une vingtaine d'années, vous l'avez dit, développe des scénarios basés sur une approche finalement très simple qui consiste à se poser d'abord la question des usages que l'on fait de l'énergie, des services qu'elle nous rend. Et c'est là que l'on parle de sobriété, donc d'intelligence individuelle et collective sur ces usages. Ensuite, de remonter vers les ressources en appliquant partout où c'est possible de l'efficacité, améliorer les rendements et réduire les pertes pour finalement avoir besoin de moins de ressources. Du coup, pouvoir faire des choix sur les ressources que l'on mobilisait. Le scénario négawatt à l'échelle de la France montre qu'en appliquant ces leviers de sobriété, d'efficacité et de développement des renouvelables dans tous les secteurs et dans tous les territoires, on peut effectivement diviser par deux environ la consommation finale d'énergie qui nous est utile et multiplier par trois la production d'énergie renouvelable, le tout aboutissant à 100% de fourniture de nos besoins par des énergies renouvelables locales.
Je l'ai dit, l'Occitanie veut devenir une région à énergie positive, une région qui n'émettra plus de CO2 et dont les besoins en énergie seront couverts à partir de sources renouvelables. Selon ce scénario, le mix énergétique sera donc essentiellement composé d'électricité, de gaz d'origine renouvelable et de chaleur renouvelable. On en est loin, en 2021, les produits pétroliers représentaient encore 44% de la consommation d'énergie finale, celle qui est délivrée aux consommateurs. Pour réussir son pari, la région doit d'abord réduire les consommations d'énergie, notamment dans le transport et le bâtiment, les deux secteurs les plus consommateurs au niveau régional. Du côté des transports, pour réduire la part des énergies fossiles, la région mise notamment sur le train. Je vous en ai déjà parlé dans un précédent épisode. Grâce à des tarifs très bas, l'Occitanie compte déjà 30% de voyageurs en plus depuis 2018. Conséquence, 165 000 tonnes de CO2 ont été économisées en 2021 selon la région. Et dans le bâtiment, voilà. C'est aussi un vaste chantier. Le secteur du bâtiment résidentiel représente 30% de la consommation régionale d'énergie. Le tertiaire, 14%. Lorsqu'ils sont mal isolés, les logements sont de véritables passoires énergétiques. Des passoires qu'il faut chauffer en permanence car ils ne retiennent pas la chaleur, avec un impact direct sur la facture et sur les émissions de CO2, surtout quand ils sont chauffés au fioul ou au gaz. Et ces passoires sont nombreuses. Au niveau national, on estime qu'il y a 5,2 millions de passoires énergétiques, soit 17% des logements. Et je ne vous parle que des résidences principales. Pour réduire la consommation énergétique des logements anciens, il faut les rénover. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions pour aider les propriétaires à se lancer. MaPrimeRénov, un dispositif à l'échelle nationale, a permis d'ores et déjà la rénovation énergétique totale ou partielle de presque 570 000 logements en 2023. En Occitanie, plusieurs dispositifs ont permis dès 2016 de réduire la consommation énergétique des bâtiments. 81 000 éco-chèques destinés à la rénovation de logements ont été attribués pour un total de 105 millions d'euros. L'Occitanie est aussi la première région à avoir lancé en 2021 un service public de la rénovation énergétique des logements, Rénov Occitanie. Benjamin Pédurand est responsable du bureau économie d'énergie de l'Agence de l'habitat de la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée. Nous avons échangé avec lui pour toute question sur Rénov Occitanie ou sur les différents dispositifs existants, il nous conseille d'aller frapper à sa porte.
Effectivement, en tant que guichet unique de la rénovation énergétique, on est là pour les administrer, pour donner un conseil effectivement qui est gratuit, neutre et indépendant de toute démarche commerciale, à la fois sur des questions techniques portant sur les travaux de rénovation énergétique, et puis également un conseil d'ordre financier par rapport aux dispositifs mis en place par l'État pour aider les gens à mener à bien leur programme de travaux de rénovation.
Au-delà du dispositif national, Rénov Occitanie apporte une aide supplémentaire aux copropriétés qui souhaitent rénover. C'est l'AREC, l'Agence régionale énergie-climat, qui est chargée de cette mission. Le parcours d'accompagnement commence par un audit, une sorte d'état des lieux des bâtiments et des coûts afin d'informer les copropriétaires. Un audit, ce n'est pas gratuit, mais grâce au dispositif Rénov Occitanie, la note est beaucoup moins salée. Benjamin Pédurand a sorti sa calculatrice.
Un audit énergétique comme ça, si je devais le rapporter au prix d'un logement, on est sur un tarif avoisinant les 600 euros. La région Occitanie propose de pouvoir financer une partie de cet audit énergétique pour qu'il y ait un reste à charge de 90 euros par copropriétaire.
L'audit c'est une chose, mais pour rénover les bâtiments, il faut ensuite payer les travaux. Là encore, la région peut venir en aide.
Il y a une obligation là, d'être accompagné hein, par soit un architecte, soit un bureau d'études. Mais là aussi, cette prestation est largement prise en charge par la région sur cette deuxième phase d'accompagnement. La région fait tout son possible pour encourager les copropriétaires à rénover leurs bâtiments.
Et ces aides peuvent vraiment alléger la facture. Prenons un exemple. À Béziers, la résidence Champfleury est une copropriété de 60 logements répartis sur 6 bâtiments construits dans les années 60. En 2020, les copropriétaires ont envisagé un ravalement de façade. Après avoir découvert le montant des aides proposées, ils ont finalement opté pour une rénovation totale. Isolation thermique des murs par l'extérieur, isolation du plancher bas du bâtiment, des toits-terrasses et création d'une ventilation mécaniquement contrôlée et collective dans les bâtiments. Benjamin Pédurand a une fois de plus fait les comptes.
Donc le coût total de l'opération TTC était de un peu plus d'un million d'euros. 53% du coût de l'opération ont été financés à la fois par les services de l'État, à la fois par la région, à la fois par des fonds propres de la communauté d'agglomération de Béziers-Méditerranée et puis des fonds des certificats d'économie d'énergie adossés à un fournisseur d'énergie.
Selon le Bureau économie d'énergie, grâce à cette prise en charge, les copropriétaires ont payé moins cher que s'ils avaient simplement fait le ravalement de façade. Pour atteindre ces objectifs d'économie d'énergie, la région Occitanie soutient aussi les collectivités dans des projets de rénovation énergétique de bâtiments publics. Plus de 1100 projets ont été financés, permettant d'économiser l'équivalent de la consommation annuelle de 9900 foyers. Et ce n'est pas tout, un nouveau plan Habitat durable doté de 150 millions d'euros sur 2 ans a pour objectif de mettre l'écologie au centre de la construction. Parmi les priorités, créer des habitats performants sur les plans énergétiques et environnementaux, notamment dans les quartiers prioritaires et les zones rurales, ou encore développer une filière de l'éco-construction. Yves Marignac, l'isolation thermique des bâtiments est un sujet identifié de longue date, apparu lors du Grenelle de l'environnement, c'était déjà en 2007. Tout le monde est convaincu que c'est important aujourd'hui.
Tout le monde est convaincu, ou en tout cas devrait l'être, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le train a pris du retard. On n'a, depuis 2007, pas vraiment réussi à lancer au niveau national des opérations massifiées de rénovation thermique pour tout un tas de raisons, des blocages du côté de la profession, des réticences du côté politique, des difficultés à mettre en place les financements. Mais le constat que l'on peut faire et les exemples tirés de la région Occitanie le montrent, c'est qu'aujourd'hui, des solutions existent et qu'il n'y a plus vraiment d'excuses pour ne pas le faire. On a des outils pour former les artisans, pour qu'ils soient capables de fournir le service de rénovation avec la qualité et la performance attendue. On a des outils pour accompagner les particuliers, les copropriétés, les offices HLM ou les collectivités sur leur parc tertiaire. On a des outils pour permettre le financement, y compris certains outils qui permettent vraiment de réduire le reste à charge pour les particuliers en prêtant et en avançant en fait les montants des travaux, en se remboursant sur les économies d'énergie réalisées. Et donc aujourd'hui, voilà, il y a tous les moyens de le faire, mais il est vraiment important que tous les dispositifs se concentrent sur la réalisation du plus possible de rénovations les plus performantes possibles. Et pourquoi c'est un enjeu essentiel ? C'est parce que les scénarios aujourd'hui montrent que l'on n'atteint pas nos objectifs climatiques en particulier si on ne réduit pas considérablement la consommation d'énergie de nos bâtiments et donc si on ne s'attaque pas à la qualité de leur enveloppe. Et puis, ça a été dit aussi, ces passoires thermiques, c'est aussi de l'argent jeté par les fenêtres pour les occupants. La rénovation thermique a ceci d'intéressant qu'elle fait complètement coïncider les enjeux énergétiques et environnementaux et les enjeux sociaux, puisque ces actions, c'est aussi un moyen évident de lutter contre la précarité énergétique qui aujourd'hui frappe plus de 12 millions de personnes dans notre pays.
Voilà, et puis cette rénovation thermique, elle doit être aussi bien organisée. Souvent, on pense d'abord aux fenêtres, alors qu'il faut peut-être d'abord penser à l'isolation des murs et puis en venir ensuite aux fenêtres.
Alors idéalement, pour atteindre les meilleurs niveaux de performance, il faut faire la rénovation complète en une seule fois. Pour différentes raisons, des raisons économiques et des raisons techniques. D'un point de vue économique, si vous commencez à faire certains gestes et à déployer des chantiers pour cela, vous allez réduire l'intérêt de réinvestir dans un chantier pour faire les gestes suivants. Et d'un point de vue technique, vous risquez de dégrader en fait la performance, de créer des effets de parois froides, de ponts thermiques, etc. Et donc, il est largement préférable de tout traiter d'un coup.
Voilà, d'où l'importance d'être bien conseillé et c'est le chantier qu'a entrepris la région Occitanie avec tous les dispositifs qui sont mis en place. Rénover les logements permet de faire baisser la facture du chauffage l'hiver, mais aussi de faire baisser la température intérieure l'été, car bien souvent les logements impossibles à chauffer en janvier deviennent des bouilloires en juillet. Des bouilloires dont on parle de plus en plus. La Fondation Abbé Pierre a publié à l'été 2023 un rapport sur la précarité énergétique d'été, une forme de mal-logement étroitement liée au réchauffement climatique. Maïder Olivier, chargé de plaidoyer à la Fondation Abbé Pierre, nous explique que c'est une forme de précarité.
Nous, on parle de précarité énergétique d'été parce qu'on considère que quand il fait plus de 30 degrés chez soi, voire même dans les témoignages qu'on a eus, certaines personnes parlaient de plus de 40 degrés dans leur logement. C'est une forme de précarité, c'est très dangereux pour la santé. Et jusqu'alors, quand on parlait de la chaleur dans le logement, le terme un peu technique, on parle de confort d'été. Selon nous, ça minimise la gravité du phénomène, alors que les conséquences sont, comme pour la précarité énergétique en hiver, à la fois sanitaire, sociale, écologique, avec des graves dangers pour la santé. On parle du taux de mortalité pendant les canicules, et en réalité, les personnes, quand elles meurent de chaud l'été, c'est en grande partie dans leur logement, parce que le logement ne les protège pas de ces chaleurs extrêmes.
Face aux grandes chaleurs, il est tentant d'acheter un climatiseur. Mais la climatisation est responsable de près de 5% des émissions d'équivalent CO2 du secteur bâtiment. Au-dessus de 25 degrés, chaque degré supplémentaire entraîne une demande de 500 mégawatts supplémentaires à l'échelle nationale. C'est l'équivalent de la consommation électrique de la ville de Bordeaux. Là aussi, il existe des solutions économes en énergie pour rafraîchir les logements. La végétalisation des toits, l'installation de protections solaires comme les pare-soleils ou les volets, l'emploi de revêtements aux couleurs claires et bien sûr, l'isolation thermique du toit et des murs. Yves Marignac, chez Negawatt, la sobriété et l'efficacité énergétique sont deux priorités. L'efficacité, c'est par exemple la rénovation énergétique performante des bâtiments. On en parlait à l'instant. Mais qu'est-ce qui caractérise une consommation sobre? Tout le monde a entendu parler des 19 degrés la journée, mais il n'y a pas que ça.
Non, il n'y a pas que ça. Et si c'est difficile de définir un niveau de consommation qui serait sobre, ce qu'on peut en revanche assez bien caractériser, c'est des gestes et des évolutions qui nous amènent à plus de sobriété. L'exemple des 19 degrés dans les logements illustre ce qu'on peut appeler une sobriété de service, c'est-à-dire la manière dont individuellement on peut être un peu plus économe dans la manière dont on utilise nos équipements et dont on se sert de l'énergie. C'est réduire la température de chauffage, ça peut être réduire sa consommation globalement de biens, veiller à éteindre les appareils, à ne pas les laisser en veille, voire encore pire, allumé. Donc il y a énormément de gestes de ce type à faire qui existent aussi dans le tertiaire. Par exemple, on a calculé que l'arrêt des ventilations, lorsque les bureaux ne sont pas occupés, entraînerait des réductions significatives de consommation de ces bâtiments. Mais la sobriété, c'est aussi des actions plus structurelles qui ne relèvent pas du coup simplement des changements de comportement, mais appellent une organisation comme la rénovation thermique par les pouvoirs publics, c'est le dimensionnement de nos véhicules, de nos bâtiments. On voit bien, par exemple, que réduire la taille de nos véhicules, réduire leur nombre pour accéder à une mobilité, disons, plus partagée avec des véhicules mieux adaptés au milieu urbain, c'est souhaitable, ça apporte des co-bénéfices du point de vue de l'occupation de l'espace, du point de vue de la pollution, mais ça doit s'organiser. Et puis la sobriété, ça peut être aussi une sobriété organisationnelle hein, qui va passer par la mutualisation d'équipements, la mutualisation d'espaces dans le bâtiment, par exemple, hein, des espaces partagés pour le travail, des espaces partagés pour la convivialité. Et pour finir, en termes d'organisation, également de l'aménagement urbain pour réduire les distances à parcourir pour voilà, accéder à notre lieu de travail, accéder à différents services. Et donc, ce qui est commun à toutes ces actions, c'est le fait d'agir consciemment sur le niveau de service que l'on demande à l'énergie de nous rendre, mais une bonne partie de ces actions relève d'une organisation collective qui souvent manque, y compris parce que juste on n'explicite pas ce besoin.
Alors pour atteindre l'objectif de devenir une région à énergie positive, l'Occitanie doit diviser par deux sa consommation d'énergie, mais aussi multiplier par trois la production locale d'énergie renouvelable. Comment atteindre cet objectif? Eh bien, nous allons mettre toute notre énergie, si j'ose dire, sur ce nouveau volet. Port-la-Nouvelle est une commune de près de 6 000 habitants, 35 000 en période estivale, près de Narbonne, dans le département de l'Aude. Elle est appréciée pour ses plages ou son chemin des vignes. Mais Port-la-Nouvelle sera bientôt aussi un pôle de la transition énergétique avec deux grands projets. Une unité de production d'hydrogène renouvelable, nom de code IDOC, qui va bientôt sortir de terre, et un parc d'éoliennes flottantes, nom de code EOLMED, qui, lui, va bientôt sortir de l'eau. Deux projets sortis des bureaux d'études de l'entreprise montpelliéraine CARE, producteur indépendant d'électricité et d'hydrogène renouvelable. Je laisse Guirec Dufour, le directeur général de CARE France, nous dresser le portrait de son entreprise.
On est une société occitane, donc l'origine de la société, c'est Béziers. Le siège maintenant de CARE France est à Montpellier. On est occitan, mais on va dire qu'on innove sur nos bases, donc notamment en Occitanie. C'est les deux projets qu'on va évoquer derrière pour dupliquer à l'échelle mondiale, parce qu'on est maintenant présent dans 21 pays. On gère 1 gigawatt d'actifs renouvelables et on est 650 personnes quand même mondialement.
Nous parlerons des éoliennes flottantes dans un instant. Penchons-nous d'abord sur le projet IDOC, un projet de production et de distribution d'hydrogène porté par l'entreprise CARE et l'Agence régionale énergie-climat Occitanie. Je vous ai déjà parlé dans un précédent épisode de Paris-Ci le futur des trains à hydrogène vert. En Occitanie, les premiers trains de ce type sont attendus en 2025. Je vous ai également parlé du technocentre Hydrogène Occitanie près de Toulouse, dont l'une des missions sera d'imaginer l'avion du futur, un avion à hydrogène. Avec ce projet IDOC, il est à nouveau question d'hydrogène appliqué au transport destiné aux usages maritimes, mais aussi aux poids lourds. Et pour ça, il faut mettre en place tout un dispositif, nous explique Guirec Dufour.
C'est un écosystème plus qu'un projet de production. On a dedans de la production d'hydrogène, mais aussi la logistique, parce que cet hydrogène, il faut le transporter. Et ensuite de la distribution, donc des stations-service le long des autoroutes A9 et A61. Ce projet, c'est un projet de 45 MW. Les 20 premiers MW sont en construction actuellement, avec la participation de la région, qui est un de nos actionnaires. Et donc, on aura une flotte de conteneurs et 6 stations sur les autoroutes pour servir en partie la mobilité lourde.
L'avantage de l'hydrogène par rapport à des batteries, c'est d'abord le poids. L'hydrogène est moins lourd que les batteries. Et faire le plein est beaucoup plus rapide. Quelques minutes pour l'hydrogène, beaucoup plus pour la recharge des batteries. Et puis, il y a l'autonomie plus grande, là encore, même si il est vrai que les batteries sont de plus en plus performantes. Mais revenons au projet IDOC. Il vise donc à produire de l'hydrogène, à le transporter et le distribuer dans un rayon de 200 km autour de l'usine. Et il s'agit bien sûr d'hydrogène vert, à ne pas confondre avec l'hydrogène gris.
Ah, il s'agit d'hydrogène vert, oui monsieur, dans le sens où c'est produit donc par électrolyse de l'eau, donc c'est de l'électricité plus de l'eau. Grosse attention sur l'eau, hein, le but du jeu ce n'est pas de priver d'autres usages de cette eau, donc on fait aujourd'hui des efforts pour réutiliser de l'eau qui avait déjà été utilisée par ailleurs, soit en se branchant sur une station d'épuration, soit en réutilisant l'eau qu'un industriel a déjà utilisée avant et en la retraitant pour pouvoir l'utiliser dans notre électrolyseur. Ça, c'est la première chose. Et au niveau de l'électricité, c'est de l'électricité verte, dans le sens qu'elle viendra d'actifs renouvelables, éolien ou solaire.
Plusieurs autres projets pour le développement de l'hydrogène vert sont en cours avec le soutien de la région Occitanie. On peut citer par exemple Hyport, inauguré fin 2023 à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, une plateforme de production et de distribution dans l'environnement aéroportuaire. J'entends les mouettes et les goélands. Prenons maintenant le large avec Éolmed, un projet de parc éolien flottant actuellement en cours de construction. Éolmed, c'est un parc de 3 éoliennes installées à 17 km des côtes. Ces machines d'une puissance de 10 MW chacune produiront l'équivalent de la consommation de 50 000 personnes. Installer des éoliennes en mer, sans qu'elles soient scellées au fond marin, est un véritable défi industriel qui repose sur de gigantesques flotteurs. Chacun pèse 3500 tonnes. La suite, c'est Guirec Dufour qui raconte.
Ces flotteurs sont des beaux bébés, on va appeler ça comme ça. Ce sont des donuts carrés, on va dire. Donc, vous voyez un donut, mais vous me faites carré avec le trou au milieu, comme un donut, qui font 46 mètres par 46 mètres de côté et 17 mètres de haut. Donc, ça fait un bel immeuble. Pour vous donner une idée, c'est la taille de l'Arc de Triomphe. Donc, vous prenez l'Arc de Triomphe, vous le couchez, et ça, c'est notre flotteur. Sur lequel on met une petite éolienne, qui va faire 164 mètres de diamètre, avec un hub, donc le rotor, le point de rotation, qui se trouve à 104 mètres de haut au-dessus du flotteur.
Un bel immeuble en effet. La région Occitanie a investi plus de 230 millions d'euros dans de nouvelles infrastructures pour permettre la construction, l'assemblage et la maintenance d'éoliennes flottantes à Port-la-Nouvelle. Dans d'autres régions, sur la côte atlantique notamment, les éoliennes reposent sur le plancher océanique. En Méditerranée, elles flottent. Guirec Dufour nous explique qu'ils n'ont pas eu le choix.
Pourquoi flottant ? Parce qu'il y a deux choses. Il y a un, en Méditerranée, les fonds sont très vite très profonds. Et donc, d'essayer d'ancrer une éolienne au fond, ça devient impossible. Donc, ça voudrait dire qu'il y a plus de 70 mètres de fond, donc c'est très très compliqué. Numéro un. Et numéro deux, en étant plus loin, on a moins d'impact visuel. Donc, une acceptabilité plus grande, ça nous permet de mettre des machines de plus grande taille. Donc, on a des moyens de production plus efficaces.
L'acceptabilité, voilà un facteur déterminant pour la réussite d'un projet, notamment du côté des pêcheurs, qui ne pourront plus pêcher dans cette zone, car même si les éoliennes sont flottantes, certaines infrastructures sont immergées et incompatibles avec la pêche.
On a des câbles, bien entendu, pour évacuer l'électricité. Donc, vous imaginez bien que si j'ai un câble qui se situe au fond de l'eau, enfin, on les fait descendre assez rapidement, mais ils sont d'abord dans l'eau avant d'être au fond de l'eau. Si le pêcheur passe avec un chalut au milieu, il va tout arracher. Donc, on est obligé de sécuriser cette zone-là pour que les pêcheurs n'y aillent pas. Sur le flottant, il y a une autre particularité, c'est que, oui, c'est flottant, mais on ne le laisse pas libre. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'intention de retrouver nos éoliennes au petit bonheur la chance au Maroc le lendemain, sur un jour de grand vent. Donc, on les ancre. Donc, on a des ancres qui partent, avant des attaches qui partent et qui sont ancrées au fond de la mer. Et de la même façon, si un pêcheur passe et chalute à ce moment-là, il nous embarque notre ancre. Et là, pour le coup, notre éolienne part au Maroc.
En même temps, ces zones qui seront interdites à la pêche risquent fort de devenir des nurseries. Et puis, une compensation économique est prévue pour la perte d'espace de pêche. Et les bateaux peuvent tout de même traverser la concession pour rejoindre leur zone de pêche. Éolmed est l'un des trois projets pilotes en cours actuellement en Méditerranée. Sa mise en service est prévue pour la fin 2024. Un deuxième projet pilote est en construction dans le même secteur au large de Leucate. Un troisième est en cours de finalisation au large de Fos-sur-Mer en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ce n'est qu'un début. Deux parcs de 750 MW chacun flotteront bientôt en mer Méditerranée. L'un au large de Narbonne, côté Occitanie, et l'autre au large de Fos, côté PACA, de quoi aider la région Occitanie à atteindre son objectif d'indépendance énergétique. Pour produire des énergies renouvelables, la région Occitanie mise sur de grands projets industriels, on vient de le voir, mais aussi sur des projets citoyens. Des appels à projets renouvelés chaque année depuis 2014 ont permis à 25 d'entre eux d'aboutir. 60 sont encore en développement. Et l'Occitanie a bien l'intention de passer à la vitesse supérieure. Elle mise sur le génie et l'imagination de ses habitants avec la mise en place de 500 projets et la mobilisation de 100 000 citoyens à l'horizon 2030. Un dispositif d'aide pour les projets de production d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure à 500 kW a été voté en 2022. Le nom de ce dispositif, aux ENR citoyens, ENR étant l'acronyme couramment utilisé pour parler d'énergie renouvelable. Concrètement, il s'agit d'une aide financière pour la réalisation de projets photovoltaïques ou hydroélectriques, des projets portés par des associations, des collectivités locales ou des entreprises. Prenons un exemple. Direction le parc naturel régional des Grands Causses, au sud de l'Aveyron. 71 000 habitants y vivent dans 93 communes. Sa consommation énergétique annuelle est estimée à 1850 gigawatt-heure, soit plus de 190 000 tonnes d'équivalent pétrole. Pour atteindre l'équilibre énergétique à l'horizon 2030, autrement dit, pour produire autant d'énergie que la communauté en consomme, les élus du territoire ont décidé d'équiper les toitures des bâtiments publics de panneaux solaires. Les toitures équipées sont de tailles différentes sur de nombreux bâtiments. On parle de grappes photovoltaïques ou de grappes solaires. En mutualisant les coûts, ces grappes permettent à certains projets peu rentables de voir le jour. Aujourd'hui, 60 installations photovoltaïques sont déjà en service et 95 sites sont en cours d'équipement. Un projet rendu possible par la région Occitanie, l'ADEME et une coopération citoyenne Sud Energia. Yves Marignac, parmi les mesures que vous préconisez pour sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, il y a justement la participation financière des collectivités locales et des citoyens dans les énergies renouvelables. Pourquoi, selon vous, cette transition ne peut se faire sans le concours actif des citoyens ?
Alors, c'est effectivement une perspective essentielle. Il y a deux raisons principalement à ça. Alors, les différents reportages le montrent. Hein, les énergies renouvelables à mobiliser, c'est en partie des énergies très industrialisées, et donc des projets qui continuent à obéir, à une forme d'économie classique. Et on en a besoin. Et la transition énergétique, c'est absolument pas renoncer à l'industrialisation. Et il y a des beaux projets avec des filières à mettre en place, comme sur l'éolien offshore. Mais les énergies renouvelables que l'on doit mobiliser, c'est aussi des énergies qui sont très ancrées dans les territoires, très diffuses, quand on parle de photovoltaïque sur les toits. Et ce déploiement, à la fois du point de vue de son acceptabilité, mais du point de vue aussi du sens qu'il fait pour les habitants des territoires et de la valeur qu'ils perçoivent dans ces projets, il a besoin d'être mis en œuvre dans des conditions où, soit par l'intermédiaire des collectivités publiques, soit directement par un engagement et un investissement citoyen, les habitants se sentent partie prenante au projet. On le sait, notamment sur l'éolien terrestre, c'est une des conditions clés pour que ces projets soient réellement perçus comme des projets de développement des territoires et pas des projets que des gros industriels viennent implanter en prélevant juste une rente et en ne redistribuant pas la valeur. Donc la première raison, c'est parce que ça fait sens et parce que ça produit de l'acceptabilité et ça permet cette multiplication des projets diffus. La deuxième raison, c'est que, on l'a dit, hein, le développement des renouvelables pour répondre à nos objectifs climatiques et de sécurité énergétique n'a de sens que s'il est accompagné et même précédé d'une action sur la demande. Et le meilleur moyen de rendre les citoyens, les habitants d'un territoire, les collectivités, les acteurs économiques co-responsables des actions sur la demande, c'est de les rendre co-responsables de la production parce que pour eux, du coup, ils deviennent acteurs d'une stratégie globale qui, là encore, fait du sens. Donc, voilà, l'appropriation des solutions de la transition énergétique, et en particulier du côté de la production, par ces moyens de participation des collectivités ou d'investissement citoyen, elle est vraiment clé pour déployer beaucoup plus vite qu'on ne le fait aujourd'hui, parce que malheureusement, la France a accumulé un énorme retard, ces énergies renouvelables si précieuses pour l'avenir.
On a le sentiment que ça peut mieux fonctionner dans les petites communes, comme l'exemple que l'on vient de citer là.
Alors, ça peut d'autant mieux fonctionner dans les petites communes que ce sont elles, hein, puisque elles sont pour l'essentiel dans des territoires ruraux ou moins urbanisés, qui en fait sont les dépositaires du potentiel de développement d'énergie renouvelable. La biomasse, hein, puisque parmi ces énergies, il y a le biogaz ou le bois énergie, les éoliennes, voire des centrales photovoltaïques, y compris en agrivoltaïsme, par exemple, sont des projets qui ne vont pas s'implanter dans les zones les plus urbaines. Et donc, c'est dans ces territoires, y compris les territoires ruraux, y compris les territoires qui aujourd'hui se sentent délaissés, que les ressources et le potentiel de faire de ces énergies renouvelables des vrais projets de développement locaux sont les plus fortes. Et là encore, dans une logique beaucoup plus collective, il y a des partenariats à trouver. Si on raisonne indépendance énergétique, sécurité et libération des énergies fossiles entre des territoires qui concentrent aujourd'hui plus d'activités ou de population et donc plus de consommation, et des territoires qui concentrent plus de potentiel de mobilisation des énergies renouvelables.
Pour réussir la transition énergétique, on l'a compris, il faut qu'elle soit acceptée par toutes et par tous et que chacun prenne conscience des enjeux. Comment y parvenir? C'est la question que nous allons maintenant nous poser. Sortir des énergies fossiles en quelques années, voilà le défi qui nous attend. Alors, faut-il parler de transition ou de révolution énergétique? Greg Dufour, directeur général de Care France, a peut-être trouvé la bonne formule.
Pour moi, c'est une révolution des mentalités qu'il faut. Il faut vraiment que les mentalités changent et changent maintenant. Sur l'énergie, ce sera une transition. On ne peut pas basculer d'un monde à l'autre du jour au lendemain. Mais s'il n'y a pas cette révolution des mentalités, on ne mettra pas en œuvre les choses qu'on a à mettre en œuvre maintenant et de façon urgente pour la transition et la sortie des fossiles demain.
En résumé, une révolution dans les têtes et une transition dans les faits. Yves Marignac, l'association Négawatt prône la sobriété énergétique depuis longtemps et les auditeurs ont bien compris qu'il ne s'agissait pas d'un retour à la lampe à huile. Est-ce que cette idée est globalement mieux acceptée aujourd'hui?
Alors oui, elle est mieux acceptée et on vit peut-être, si on veut être optimiste, et on a besoin de l'être, une bascule liée aux crises qu'on a connues ces dernières années. La crise de la Covid d'abord et puis la crise énergétique avec le drame en Ukraine et les difficultés de notre parc nucléaire. On a en tout cas pendant un moment senti que la question des limites venait dans les représentations collectives. Et pour, en fait, accepter l'idée de sobriété, cette question, elle est clé. Elle se fonde sur l'idée que nous sommes aujourd'hui confrontés à des limites planétaires et que c'est ça qui nécessite les substitutions du côté des ressources énergétiques et autres qui nous occupent aujourd'hui. Dès lors que cette question des limites rentre dans les têtes, alors la sobriété devient effectivement une condition nécessaire pour, d'une part, rester collectivement dans ses limites et d'autre part, mieux redistribuer l'accès aux ressources dans ces limites collectives. Et il y a un lien très fort à faire pour l'acceptabilité de la sobriété entre cet enjeu de redistribution, de meilleur usage collectif des ressources et des principes d'équité ou de solidarité qui devraient en tout cas rendre ces politiques positives.
Mais bon, il y a quand même un peu de boulot parce que en 2022, le gouvernement a quand même dû prendre un décret pour rappeler qu'il faut fermer la porte quand la climatisation ou le chauffage sont en marche.
Oui, mais cette circulaire, c'était vraiment l'illustration de à quel point les Français, peut-être plus encore que d'autres populations autour de nous, ont perdu ce lien concret avec ce que ça veut dire de consommer de l'énergie. Donc on part de très loin, Mais on peut aussi constater que, dans le même mouvement, le gouvernement a lancé ce plan de sobriété, pour lequel d'ailleurs Negawatt a fait énormément de propositions et qui constitue une bonne partie de la substance de ce plan, autour d'idées très simples. Réduire la température de chauffage quand on le peut. Ça ne s'applique évidemment pas à des personnes en précarité énergétique ou à des personnes vulnérables de par leur santé. Éteindre des appareils en veille, éteindre les ventilations dans les bâtiments tertiaires lorsqu'ils ne sont pas occupés. Voilà, tout un tas de mesures vraiment de bon sens qui, mises bout à bout, c'était en tout cas notre calcul, permettrait 10 à 20% de réduction quasi immédiate des consommations d'énergie, est ce qu'on a observé et qui semble perdurer alors que la crise, au sens le plus aigu du terme, est derrière nous. C'est une baisse d'environ 10% des consommations. Alors, il faut pas être naïf. Hein, une partie de cette baisse est malheureusement liée à des difficultés économiques pour les entreprises et à des difficultés budgétaires pour un certain nombre de ménages. Mais il semble bien aussi qu'une partie vient d'une réponse positive, citoyenne, on pourrait dire, à cet appel à la sobriété. Et peut-être ce que l'on tire, nous, comme leçon de cet épisode, c'est que les citoyens, en fait, comprennent bien le problème de la surconsommation, comprennent bien l'enjeu d'une réduction de nos consommations par la sobriété, comprennent les co-bénéfices et en sont d'une certaine manière demandeurs à deux conditions. La première, c'est qu'ils soient accompagnés et que des alternatives leur soient proposées. Dire, par exemple, on se souvient de la crise des gilets jaunes, qu'on utilise trop la voiture et que donc on va, pour l'utiliser moins, mettre une taxe sur la consommation de carburant sans s'engager à déployer des infrastructures pour les mobilités douces ou des transports en commun, bah, ça n'est pas acceptable. Hein. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est l'enjeu d'une forme de justice sociale dans la répartition de l'effort. Les Français sont en particulier demandeurs de ce que le gouvernement mette plus l'accent, ou les pouvoirs publics en général, sur des réductions de consommation appliquées aux usages les plus énergivores et les moins justifiables. On se souvient par exemple du débat sur l'utilisation des jets privés qui, du point de vue du bilan énergétique ou des gaz à effet de serre global,
c'est symbolique.
Est tout à fait symbolique, mais qui, voilà, vis-à-vis de cet enjeu de justice, est essentiel.
Alors, on peut améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, être plus sobre dans les consommations du quotidien, mais dans le même temps, nous avons de nouveaux besoins. Hein. Les véhicules électriques, on pourrait aussi parler des data centers. Alors, comment résoudre cette équation ?
Eh bien, on a effectivement de nouveaux besoins, en tout cas des transferts d'usage pour ce qui est des véhicules électriques hein, qui ne viennent pas s'ajouter, heureusement, aux véhicules thermiques ou des nouveaux usages autour du numérique. Là encore, la sobriété est essentielle hein, pour ne pas dériver sur les usages de matières premières. On connaît l'impact du numérique sur nos consommations de dizaines de métaux différents. On commence à mesurer l'impact d'une électrification de notre mobilité, de nos véhicules, sur les besoins vis-à-vis de matières premières pour les batteries, comme le lithium. Le secrétariat général de la planification écologique a par exemple calculé que la trajectoire d'électrification massive de la mobilité que la France envisage aujourd'hui à 2030 conduirait notre pays à utiliser 5% de la production mondiale de lithium à cet horizon. Pour 1% de la population mondiale environ, on voit bien que ça ne fait pas sens et qu'en tout cas, ça n'est pas une trajectoire compatible avec la mise en œuvre partout des mêmes solutions de transition. Et donc, les nouveaux usages doivent être en fait une opportunité de repenser nos services du quotidien. Et typiquement, le véhicule électrique, pour nous, c'est une occasion de conserver une forme de grande liberté de mobilité en réduisant notre dépendance à la propriété individuelle d'une voiture à tout faire, hein, qui aujourd'hui pèse énormément sur nos factures de pétrole, hein, nos importations, sur la pollution, sur l'occupation des sols, puisque on utilise des berlines de manière totalement sous-employée. Un des membres de Negawatt, qui est par ailleurs le dirigeant d'une start-up qui s'appelle Ecov et qui propose des lignes de covoiturage, rappelle souvent qu'en heure de pointe, nos véhicules transportent 60 millions de sièges vides sur les routes. Et voilà, donc sortir d'une aberration comme celle-là est essentiel et les nouveaux outils et les nouveaux usages doivent être, là encore, l'opportunité de repenser nos consommations du quotidien.
Yves-Marie Ignac, merci d'être venu à ce micro. Résumons ce moment que nous venons de passer ensemble. Face à l'urgence climatique, la France s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, comme tous les pays de l'Union européenne. En Occitanie, la feuille de route est tracée depuis 2016, devenir la première région d'Europe à énergie positive en 2050. À cette échéance, la région souhaite couvrir 100% de sa consommation par des énergies renouvelables produites localement. En développant la production d'énergie renouvelable, comme l'éolien flottant, en soutenant des projets citoyens, en participant à la rénovation énergétique des bâtiments avec Rénov' Occitanie, ou encore en développant des transports en commun performants et décarbonés. Notre quatrième voyage dans le futur s'achève ici. Merci, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir suivi cette série de podcasts. À très bientôt.
Ce podcast vous est proposé par la Région Occitanie.